Chapitre 27. La seconde couronne. Le mémorable complot que l'esclave noir dénonçait à Corvinus était celui auquel Fulvius et son gardien ont déjà fait allusion dans la conversation rapportée plus haut. Il n'avait pas oublié les aveux naïfs de la jeune martyre aveugle, et depuis ce moment, il ne doutait plus qu'Agnès ne fût chrétienne. Il pensait donc avoir deux cordes à son arc. Ou il effraierait et la déciderait par crainte à l'épouser, où il la dénoncerait, et alors il obtiendrait une bonne part de ses richesses par la confiscation. Les railleries et les conseils de Rotas le portaient à prendre ce second parti. Désespérant d'obtenir de la jeune fille une seconde entrevue, il lui écrivit une lettre respectueuse mais pressante, en lui exposant son attachement désintéressé pour elle, en la priant d'accepter son cœur et ses hommages. À la fin de la lettre, il insinuait vaguement que, si sa requête n'était pas agréée, un rigoureux devoir le forcerait à prendre une autre voie. À cette demande, il reçut un refus calme, poli, mais inébranlable, et rejetant à jamais son espoir à la main d'Agnès. Bien plus, la lettre disait en termes précis qu'Agnès, étant l'épouse de l'agneau sans tache, ne pouvait accepter l'assurance d'aucun attachement périssable. Ce refus éteignit toute pitié dans le cœur de Fulvius, mais il résolut d'agir avec prudence. En ce moment, Fabiola, voyant que Sébastien refusait de s'enfuir, conçut le projet romanesque de le sauver malgré lui en obtenant son pardon de l'empereur. Elle ne connaissait pas l'abîme de perversité que peut contenir le cœur humain. Elle pensait que le tyran pouvait se laisser aller à un moment de fureur, mais qu'il ne voudrait pas condamner deux fois un homme à la mort. La jeune fille croyait qu'un souffle de miséricorde et de pitié soulevait encore cette poitrine et que ses larmes et ses prières sauraient l'en arracher comme la chaleur dilate le baume caché dans le bois dur. Elle envoya donc une pétition pour obtenir une audience et, connaissant l'avarice du tyran, elle prit le prétexte de vouloir lui offrir un léger témoignage du dévouement de son père et de son propre attachement. Ce léger présent était une bague enrichie de pierreries d'une valeur inestimable et d'une rare beauté. Le présent fut accepté, mais on répondit simplement à Fabiola de se rendre au Palatin le 20 du même mois pour se tenir avec les autres pétitionnaires attendant la descente de l'empereur par le grand escalier conduisant au sacrifice. Quoique la réponse ne fût pas encourageante, la jeune fille résolut de courir la chance et de faire de son mieux. Le jour attendu se leva et Fabiola, vêtue de deuil comme suppliante et à cause de la mort de son père, fut bientôt au milieu d'un groupe de créatures plus malheureuses qu'elle, de mères, d'enfants, de sœurs, qui présentaient des pétitions pour des êtres bien-aimés retenus dans les cachots ou condamnés aux travaux des mines. Le faible espoir qu'elle avait conçu s'éteignit bientôt à la vue de tant d'infortunés, trop nombreux pour espérer tous la miséricorde impériale. Mais sa dernière lueur d'espérance s'évanouit à chacun des pas dont le tyran faisait retentir l'escalier de marbre, bien que Fabiola vît l'anneau brillant orner sa main épaisse. À chaque pas, il arrachait un papier de la main des malheureux suppliants, le parcourait avec mépris, puis le déchirait ou le jetait à terre. De temps en temps seulement, il mettait une requête de côté en la passant à son secrétaire, aussi impérieux que lui. Le tour de Fabiola arrivait. Encore deux marches et l'empereur serait près d'elle. Son cœur battait violemment, non de crainte du tyran, mais d'anxiété sur le sort de Sébastien. Elle aurait voulu prier, mais à qui et comment prier, elle ne le savait pas. Maximien étendait la main pour saisir le papier que la jeune patricienne lui présentait, lorsqu'il recula et se retourna en entendant prononcer son nom sans aucune cérémonie. Fabiola, elle aussi, leva les yeux, car elle reconnaissait la voix qui retentissait. En face d'elle, à une certaine hauteur dans la muraille de marbre blanc, elle avait remarqué une fenêtre ouverte, entourée d'une corniche en marbre jaune. À travers cette fenêtre, la lumière se répandait dans un corridor de service conduisant aux appartements d'Irène. Elle leva donc les yeux, guidée par le son de la voix, et dans l'encadrement obscur de la fenêtre, aperçut une figure à la fois magnifique et effrayante. C'était Sébastien, pâle et amaigri, et dont la forme transparente avait quelque chose de surnaturel. Calme et ferme, comme si les passions humaines et les fortes émotions de ce monde n'avaient plus d'empire sur lui, Il apparaissait, et la draperie flottante qu'il avait jetée sur son corps déchiré laissait voir, en s'entr'ouvrant, sa poitrine et ses bras encore transversés. Il avait reconnu le son des trompettes accoutumées annonçant le passage de l'empereur. Il s'était levé, bien faible encore, pour venir le saluer. « Maximien ! » cria-t-il d'une voix creuse mais claire. « Qui es-tu, misérable, pour oser prononcer si librement le nom de ton empereur ?» demanda le tyran en se tournant vers le jeune homme. « Je reviens de chez les morts pour t'annoncer que le jour de la colère et de la vengeance approche à grands pas. Le sang des saints de Dieu a arrosé les pavés de cette ville. Tu as jeté leurs corps vénérés dans le fleuve ou dans les lieux infects aux portes de la ville. Tu as renversé les temples de Dieu, profané ses autels et accaparé l'héritage de ses pauvres. Dieu a jugé tes crimes, ton iniquité, ta débauche, ton injustice, ton avarice et ton orgueil. Sa colère et sa justice t'atteindront bientôt, tu mourras de mort violente et Dieu donnera à son Église un empereur selon son cœur. Le monde entier détestera ta mémoire jusqu'à la fin des temps. Repens-toi pendant qu'il est encore temps, homme impie, et demande pardon à Dieu au nom du crucifié que jusqu'à présent tu as persécuté. » Un silence de mort suivit et accompagna ces paroles. L'empereur semblait livré à une terreur qui le paralysait, car il avait bientôt reconnu Sébastien et il se croyait en présence d'un fantôme. Mais, dominant son émotion, il cria « Hola, qu'on aille l'arrêter et qu'on l'amène devant moi !» Il n'aimait pas à prononcer son nom. « Ici, Ifax ! Où est Ifax ? Je viens de le voir !» Mais le mort avait reconnu de suite Sébastien et s'était réfugié dans ses quartiers. « Hola ! Il est parti à ce que je vois ! Alors, ici, drôle ! Quel est ton nom ?» Il s'adressait à Corvinus qui attendait son père. « Va dans la cour de Numidie et ordonne à Ifax de venir immédiatement. » Corvinus, le cœur pesant, partit pour obéir à l'empereur. Ifax avait raconté ce qui venait d'arriver et mis ses hommes sur la défensive. Une seule porte, située à l'extrémité de la cour, restait ouverte et, quand le messager l'eut franchie, il n'osa pas avancer. 50 hommes rangés de chaque côté de la cour, Ifax et Jubala restaient au fond. Silencieuses et immobiles, avec leurs poitrines noires et leurs bras nus, leurs arcs tendus et fixés du côté de la porte, on les aurait pris pour une avenue de statues de basalte conduisant à un temple égyptien. « Ifax !» dit Corvinus d'une voix tremblante. « L'empereur vous demande. » « Dites à sa majesté, en lui présentant mes respects, que mes hommes ont juré que nul ne franchirait le seuil pour entrer ni pour sortir de notre quartier, sans recevoir par la poitrine ou par le dos une centaine de traits dans le cœur, jusqu'à ce que l'empereur nous envoie un gage de pardon de toute offense. » Corvinus se hâta de rapporter le message que l'empereur reçut en riant. Les archémores étaient des hommes avec lesquels l'empereur ne pouvait pas entrer en querelle. Ils l'aidaient, et qu'il s'agît d'une bataille ou d'une insurrection, leurs flèches atteignaient sûrement les chefs qu'on leur désignait. « Les rusés coquins ! » s'écria-t-il. « Tiens, porte ce bijou à l'épouse noire d'Ifax !» En disant ces mots, il remit à Corvinus l'anneau splendide de Fabiola. Celui-ci se hâta d'aller remplir sa gracieuse mission et il jeta l'anneau au milieu de la cour. En un instant, les arcs s'abaissèrent, les flèches se détendirent. Jubala, ravi, se précipita sur la bague et la saisit. Un violent coup de poing de son mari l'étendit par terre. Ce tour d'adresse fut salué de longs applaudissements. Le sauvage saisit le bijou et la femme se releva en se demandant si son esclavage n'était pas devenu plus dur encore. Ifax, en se présentant devant l'empereur, s'excusa sur l'ordre impérial. « Si vous nous aviez permis d'envoyer aux condamnés une flèche droite à la tête ou au cœur, tout aurait été bien. Mais à la façon dont vous nous avez donné vos ordres, nous ne sommes pas responsables. » « En tout cas, je veillerai moi-même à ce que cette fois, l'ouvrage soit proprement fait, » dit Maximien. « Envoie-moi deux de tes hommes armés de massues. » Deux némores qui accompagnaient Ifax avancèrent. Sébastien, pouvant à peine se tenir debout, était là, lui aussi, souriant et intrépide. « Maintenant, mes hommes, » dit le barbare, « je ne veux pas de sang répandu sur cet escalier. Ainsi, tuez-le avec vos massues et faites soigneusement votre besogne. « Madame, quelle est votre demande » ajouta-t-il en étendant la main vers Fabiola qu'il reconnut et à laquelle il parla avec un certain respect. Terrifiée, dégoûtée et presque évanouie à la vue de ce qui se préparait devant elle, elle dit à demi-voix « Seigneur, je crains qu'il ne soit trop tard. » « Pourquoi donc trop tard ?» répondit-il en parcourant la requête. Une étincelle sombre s'échappa de sa prunelle en disant « Quoi ? Vous saviez que Sébastien était encore vivant ? Êtes-vous chrétienne ?»« Non, Seigneur, » répondit-elle. Et cette réponse négative lui brûlait déjà la gorge comme un mensonge. Pour le salut de sa vie, elle ne pouvait pas dire autre chose. « Et cependant, Fabiola, votre jour n'est pas éloigné. » « Mais, comme vous venez de le dire, » dit l'empereur plus serein en lui rendant sa pétition, « je crains qu'il ne soit trop tard. Le dernier coup aura été sans doute l'ictus graciosus, le coup de grâce. »« Je me sens défaillir, Seigneur, » dit-elle respectueusement. « Puis-je me retirer ?»« Sans doute, mais je ne vous ai pas remercié du bel anneau que vous m'avez envoyé et que j'ai donné à la femme d'Iphax, son ancienne esclave. » Il paraîtra plus brillant sur cette main noire que même sur la mienne. Adieu. » Et il baisa sa main avec un méchant sourire, comme s'il n'y avait pas tout près de lui le corps d'un martyr qui témoignait contre lui. Il avait raison. Le coup violent que Sébastien avait reçu sur la tête était devenu le coup suprême. L'intrépide tribun venait de parvenir dans ce royaume, après lequel il avait soupiré pendant si longtemps. Il y apportait une double palme et les anges lui tressèrent une double couronne. Sa fin avait été ignominieuse aux yeux du monde. On l'avait assommé sans cérémonie pendant que l'empereur continuait sa conversation. Ce mépris souverain ajoutait à la cruauté de son martyre. Les chrétiens ne doivent pas rechercher dans la souffrance les honneurs qu'elle peut procurer. Le tyran, voyant son ouvrage accompli, ordonna qu'on ne jetât pas le corps de Sébastien dans le Tibre ou aux portes de Rome. Suspendez un bon nombre de poids à son corps et jetez-le dans le cloaque pour y pourrir et servir de nourriture aux rats. Au moins, les chrétiens ne pourront pas l'avoir. Cet ordre fut exécuté. Les actes du Saint-Martyr nous apprennent que dans la nuit, Sébastien apparut à la matrone Lucina et lui enseigna où elle trouverait les restes vénérables. Elle obéit à ses instructions et les saintes reliques furent inhumées à l'endroit où s'éleva la basilique qui porte le nom de l'intrépide tribun.